Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous, Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Allons, revenons à la colonisation, mais aujourd'hui c'est Eric, professeur agrégé d'histoire-géographie, qui répondra à mes questions. Il est en effet très intéressant de connaître les coulisses de l'histoire officielle grâce à un professeur qui, tout au long de sa carrière, s'est battu contre les idées reçues. Je dois ajouter qu'Éric est aussi géographe et cartographe. Il nous fera donc découvrir l'importance de la géographie dans l'appréhension de la colonisation. Éric, tu es nordiste. Quel souvenir personnel gardes-tu de la fin de la colonisation et de son impact dans la région ?
Bonjour. Dans ma famille, je n'ai pas été confronté au thème de la décolonisation, mon père n'ayant pas fait la guerre d'Algérie. C'est plutôt les deux guerres mondiales qui marquent la mémoire collective du Nord-Pas-de-Calais. Pendant mes études universitaires, c'est par la géographie que j'ai pu mesurer l'impact de la colonisation. J'ai suivi un cours sur l'espace sahélien par une spécialiste de la géographie tropicale, mariée à un Vietnamien, donc sensibilisée à ce thème de la colonisation. La culture de l'arachide, introduite par les Espagnols au XVIe siècle, a été reprise et massifiée par les Français. Culture massive et mécanisation lourde ont littéralement détruit les sols. Or, des sols déstructurés mettent de très nombreuses années à se reconstituer. Aussi, on peut dire que l'héritage de la colonisation est très lourd. De plus, cette extension s'est faite au détriment des cultures vivrières, déclenchant par là même des cycles de famine. Par contre, le sieur a fait de substantiels bénéfices.
Je pense que c'est le moment de passer un extrait du documentaire « Afrique 50 » de René Vautier. Il me semble essentiel de s'arrêter un moment sur ce documentaire. En 1949, la Ligue française de l'enseignement commande à René Vautier un reportage destiné à montrer les bienfaits de la mission éducative de la France en Afrique. Mais René Vautier, révolté par ce qu'il voit, décide de filmer la réalité de cette colonisation. Ses négatifs sont saisis par la police et il reçoit une citation à comparaître. Mais il avait réussi à sauver quelques bobines qui lui permirent en 1950 de réaliser son documentaire de 15 minutes. C'est le premier film anticolonialiste. Évidemment, il fut interdit pendant plus de 40 ans et vaudra à René Vautier 13 inculpations et un an de prison.
Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Mais ce village a encore de la chance dans sa misère. Il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, deux balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Markala Sansandang sur le Niger. Une turbine fournit l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les Noirs reviennent moins cher. Dans les champs de mil, dans les champs de coton, dans les champs d'arachide, les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de Le Sieur et d'Unilever montent en flèche. Perfectionner l'équipement, à quoi bon? Une machine ferait le travail de 20 noirs, bien sûr, mais 20 noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine. Alors usons le noir. D'ailleurs, le forgeron est sur place pour réparer les instruments et pour en fabriquer d'autres. Et ses fils peuvent l'aider. Une école? Pas besoin de savoir lire pour faire marcher ce soufflet 16 heures par jour. Et les Noirs travaillent dans les plantations. Les Noirs travaillent dans la forêt pour 50 francs par jour. Les richesses d'Afrique s'accumulent. Un proverbe soudanais dit « Quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier. Quand les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. C'est toujours pour remplir les flancs de ces bateaux qui attendent pour s'en aller chargés de toute la sève africaine. En échange, il faut des volets pour la maison de monsieur l'administrateur. Pas sur la tête, une tête de noir est sale pour un volet d'administrateur. À bout de bras et plus vite. Une péniche de la compagnie s'est échouée sur un banc de sable. Pas besoin de remorqueur pour la déhaler. Les nègres sont moins chers que le mazout. Si l'un se noie ou se fait croquer par un caïman, on donnera 500 francs à sa veuve. Poussé sur les bambous pour 50 francs par jour. Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire, mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Et tu as vu comment on traite les villages qui ne peuvent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les Noirs poussent sur les perches qu'ont glissé sur leurs fleuves. Les chargements de coton sans espoir de vêtements. Les chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat. Les chargements d'arachide sans espoir d'huile et de savon. Les chargements d'okoumé, d'acajou sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres. De la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales, demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement, il réclame son dû. De Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique réclame. Mais il se heurte à une administration dont même un député MRP, l'abbé Boganda, a dit qu'elle était corrompue, raciste, machiavélique, qu'elle ne représentait pas la France mais commettait des crimes au nom de la France et de la civilisation. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, semant partout la ruine. La ruine et la mort, en notre nom, à nous, gens de France.
Autre héritage de la colonisation que l'on peut voir sur les cartes, c'est le tracé des États qui ne correspondent à strictement en rien. Bon, il est évident que, par exemple, si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, il y a un système qui est basé plutôt sur les ethnies et sur la fonctionnalité. C'est-à-dire, vous avez par exemple les Peuls qui sont des éleveurs et qui sont en complémentarité avec les sédentaires agriculteurs. Couper ces systèmes par un jeu de frontières qui correspond à rien dans la logique africaine, c'est totalement absurde. Dans le même genre d'idée, je suis très attaché au cas des Touaregs qui, dans le désert, sur la zone sahélienne, ont allé d'est en ouest, plutôt d'ailleurs d'ouest en est, sans du tout être marquée par la frontière. Donc, à un moment donné, les États, les nouveaux États venus aux indépendances n'ont eu de cesse que de casser ce système parce que, en plus, à leurs yeux, ces populations nomades sont peu contrôlables. Si on prend le cas de l'Algérie, l'État algérien a essayé de fixer les populations de Touareg dans des villages qui ne correspondent en rien à leur culture, et je pense que ça a été un échec total. Dans le même genre d'idée, les héritages délicats de la période postcoloniale et du découpage en États, il y a évidemment le cas du Moyen-Orient. Je ne vous parle pas du problème plus que difficile de la Palestine, mais aussi des autres États où on a découpé avec des arrière-pensées entre Britanniques et français sur le contrôle des puits de pétrole. Et au même moment, en 1916, en Première Guerre mondiale, les Français et les Britanniques avaient fait une promesse de la création d'un État kurde indépendant. Et je pense qu'aujourd'hui, ça rebondit et les Kurdes attendent toujours.
Un petit intermède avec un chant traditionnel kurde, ici chanté par Zadina Shekir, fermière.
Petite précision à propos du sort du peuple kurde, cette promesse faite d'un État futur pour les Kurdes a été faite dans le cadre des accords secrets en 1916, les accords Sykes-Picot. Mais à vrai dire, je pense que la phrase de Henri Queuille, qui était président du Conseil de la 4e République, passe très bien. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.
Et lorsque tu as commencé à travailler comme prof, quel souvenir du programme par rapport à la colonisation as-tu ?
Disons que ma carrière a été, dans un premier temps, le premier tiers, s'est faite en collège. Et en collège, le thème de la colonisation et de la décolonisation est assez peu marqué. Par contre, et ça c'est valable pour toute ma période d'enseignant, il y a des sujets tellement accrocheurs qu'ils ont tendance à écraser le programme. Je pense par exemple aux deux guerres mondiales, À vrai dire, le thème de la colonisation, de la décolonisation est marqué par plusieurs paramètres. Il y a la formation universitaire, il y a le répondant des élèves, il y a la place du thème dans les programmes qui a évolué, et je dirais avec une fenêtre importante entre 1995 et 2005, où là, on a vu monter au moins sur les textes, sur les BO, le poids de ce thème dans les programmes. Dans les études universitaires, il est évident qu'il y a quatre grandes périodes historiques. Il y a l'Antiquité, il y a la médiévale, il y a la moderne et il y a enfin la contemporaine. Alors, replacé dans cette grande frise historique, vous imaginez que le thème colonisation-décolonisation ne peut pas prendre une place énorme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le répondant des élèves. Il y a un thème qui écrase complètement l'intérêt des élèves, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a des films, ça les marque tellement et peut-être un peu au détriment des autres sujets.
Eh bien Eric, comme tu parles de la guerre, je voudrais passer une chanson d'un chanteur que tu aimes beaucoup. Voici « Deux minutes fugitives » de Gilbert Lafaye.
C'est une chanson naïve, un accord de cristal. Deux minutes fugitives, sans rien d'original. Comme un bruit de gencive contre une porte en métal. Comme un bruit de gencive. C'est une larme qui coule comme une goutte de sang. Le regard de la foule, des martyrs innocents. C'est une force qui saoule l'engrenage incessant. Un bruit de mort qui roule et qui va grandissant. C'est une force qui saoule et l'on se sent tout seul. Mais c'est ton sang qui coule, c'est mon poing dans ta gueule. Quand un enfant s'écroule, quand un soldat dégueule. C'est une force qui saoule, un amas de linceul. C'est une chanson naïve, un accord de cristal. Une nouvelle relative quand on lit son journal. C'est la lame incisive, la douleur vertébrale, c'est la lame incisive. C'est une chanson naïve, un accord de cristal, sur des choses qui arrivent et qui deviennent banales, comme un homme que l'on prive de parties génitales, une femme écorchée vive, une fillette qu'on empale. C'est ma terre planétaire qui n'est pas pour demain, tant qu'il y aura des mains pour trancher ses artères. C'est un flot quotidien, et l'horreur et la guerre. C'est un visage humain, piétiné sur des pierres. C'est une chanson naïve, un restant d'idéal. Un rêve à la dérive, sur un air de cristal. Une chanson émotive, sans théorie profonde. Deux minutes fugitives, qui changeront pas le monde. C'est une larme qui coule, comme une goutte de sang.
En ce qui concerne la définition des programmes, la colonisation-décolonisation est peu marquée dans les programmes avant 1995. Puis tout doucement, il y a un tournant entre 2000 et 2015, elle va un peu plus s'imposer et même s'ouvrir à autre chose que colonisation-décolonisation du cas de la France et être un thème à part entière. Pour autant, le thème est aussi marqué par sa place dans l'année. Il est évident qu'une question qui est au mois de mai a peu de chances d'être fortement marquée par les élèves, puisqu'ils sont souvent, par exemple, en classe de première, qui est le cas du sujet de la colonisation, de la décolonisation. Ils sont plutôt intéressés par leur bac français que par le programme d'histoire. Ce qui joue un rôle aussi par rapport aux élèves et dans notre enseignement, c'est le poids pour tout historien, puisque c'est la base, c'est le document. Et moi, je me souviens que face à mes élèves, j'ai réussi à bien les accrocher sur des documents un peu choc, qui est par exemple le thème des os humains. Thème qui a été extrêmement bien travaillé par Pascal Blanchard, auquel je lui dois beaucoup. Et par exemple, je pouvais raconter l'anecdote de Carambeu, le footballeur de l'équipe de France au moment de la Coupe du Monde de 98 et même à chaque match de l'équipe de France, qui refusait de chanter la Marseillaise en souvenir de son arrière-grand-père qui était à l'exposition coloniale, il me semble, de 1931, dans une cage. Si certains doutent encore de la barbarie de cette période de colonisation, eh bien, le thème des os humains est particulièrement intéressant, il en vaut bien d'autres.
Pascal Blanchard et Éric Deroux ont monté un documentaire sur une iconographie rare. Mais nous sommes à la radio. Vous entendrez donc le texte qui est très instructif sur ce que les hommes sont capables de faire par racisme.
Paris, la ville lumière, la capitale des libertés. À l'heure où des milliers de visiteurs s'immortalisent sur la tour Eiffel, qui se souvient pourtant qu'il y a à peine un siècle, ici même, se pressaient des millions de badauds pour regarder d'autres hommes exhibés comme des objets de curiosité. De Lyon à Turin, de Londres à Hambourg, de Bruxelles à Chicago, de Genève à Paris, ce sont plus de 400 millions d'Occidentaux qui découvriront ce que l'on considérait comme des sauvages dans de véritables zoos humains. Ironie de l'histoire, les fondations du futur musée des arts dit premier se creusent aujourd'hui sur l'emplacement de l'une de ces exhibitions racistes. Les toutes premières et rarissimes images d'Africains tournées en Europe nous dévoilent une partie de cette histoire inavouable. Le film, dont le titre original est « Baignade de nègre », a été enregistré par les Frères Lumière au Jardin d'acclimatation de Paris en 1896. L'année précédente, le spectacle se déroulait au pied de la tour Eiffel. Sur les traces de l'américain Barnum, l'inventeur au cirque des exhibitions de monstres, les spectacles anthropozoologiques, dira lui-même Karl Hagenbeck, vont connaître un succès immédiat et mondial. Des dizaines d'impresarios courent le Pacifique, l'Asie, l'Amérique du Sud et surtout l'Afrique, à la recherche de populations de plus en plus exotiques, jugées sauvages ou spectaculaires. Au total, ce seront des centaines de troupes, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui seront acheminés vers l'Europe et les États-Unis pour être exhibés dans les zoos, les expositions, les foires, les cirques, sur la scène des cabarets et les music-halls. Transportés comme des animaux rares, ces hommes savaient-ils qu'ils allaient devenir, malgré eux, les acteurs des fantasmes de l'Occident. Un des premiers clients d'Hagenbeck est Geoffroy Saint-Hilaire, le directeur du jardin d'acclimatation de Paris. Pendant le siège de la capitale, en 1870, les habitants ont dévoré tous les animaux du zoo. Et il est en quête d'attractions nouvelles pour relancer ses affaires. Désormais convaincu par les exhibitions et par les scientifiques que le sauvage existe, le public est tout prêt à soutenir la course aux empires coloniaux. S'appuyant sur cet engouement populaire, les grands États européens intègrent progressivement les zoos humains à leur discours colonial. Point d'orgue de cette propagande, les grandes expositions nationales et coloniales qui vont se succéder sans interruption à partir de 1890, à Lyon, Glasgow, Barcelone, Berlin ou encore Genève. Celle qui se tient à Bruxelles en 1897 est l'une des plus emblématiques. Autre temps fort de cette fin du 19e siècle, les expositions universelles dont Paris se fait une spécialité. En 1889, sur le Champ de Mars, on a construit la Tour Eiffel pour célébrer le centenaire de la Révolution. Et en 1900, pour entrer dans le siècle, la France et ses colonies invitent le reste du monde à participer à une gigantesque mise en scène du progrès. Parfaitement rodés, les spectacles ethniques d'Algériens, de Dahoméens, de Galibis, de Saint-Galais ou de Peau-Rouge, entre le jardin d'acclimatation, le Champ de Mars et les Folies Bergères, font aussi du Paris de la Belle Époque celui des zoos humains. Avec les magazines illustrés, la carte postale et le film, ici un village à Chantilly tourné par les Frères Lumière à Lyon en 1897, l'image devient un instrument de vulgarisation idéal. À peine alphabétisés, une immense majorité d'Occidentaux découvrent des mondes totalement réinventés et scénarisés. Pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, on est passé peu à peu du spécimen à la troupe et maintenant à de véritables villages itinérants avec hommes, femmes, enfants et animaux. Dans les allées du jardin tropical de Nogent, aux lisières du bois de Vincennes, se dégradent lentement les vestiges de l'exposition coloniale de 1907. C'est ici que la perception du sauvage s'est modifiée et qu'il est maintenant devenu un indigène au service de l'empire colonial. Nouvelle preuve de ces manipulations, le nom des troupes et des villages change selon les pays où on les produit. Actualité coloniale, mode, demande des visiteurs, budget des impresarios transforment ici et là un groupe de Sénégalais en Togolais ou de Birmans en Javanais. On va même jusqu'à inventer de toutes pièces une population, les bientôt célèbres Niam Niam. Puis en traversant l'Atlantique, ces mises en scène vont obéir à d'autres objectifs. La jeune nation américaine est en pleine construction et entre 1876 et 1915, dans toutes les expositions qu'elle organise, des sauvages sont présents, en particulier pour assigner une place à ses propres noirs et indiens. Des mesures américaines obligent, l'exposition de Chicago de 1893 fera des centaines de victimes parmi les milliers d'exhibés. Malgré la volonté affichée par les officiels de ne plus stigmatiser les indigènes, les chansons populaires et surtout la mésaventure survenue à un groupe de Kanaks prouvent que le public reste avide de stéréotypes dégradants. Convaincu de participer à l'exposition pour représenter la Nouvelle-Calédonie, une centaine de Kanaks se retrouvent en fait déguisés et obligés de jouer les cannibales au jardin d'acclimatation de Paris. À court d'argent, l'impresario qui les a bernés décide ensuite d'en louer quelques-uns pour une des dernières exhibitions humaines montées par les Hagenbeck, à Cologne et à Hambourg. Ce sera un échec commercial. Ultime avatar du zoo à la française, il faudra encore des mois pour que ces hommes, parmi lesquels l'aïeul du footballeur Christian Carambeu, parviennent à rentrer au pays. En rasant les monuments élevés à la gloire du rêve colonial pour l'exposition de 1931 au bois de Vincennes, c'est plus qu'un décor de carton-pâte qu'on fait disparaître. On efface surtout, et pour longtemps, les traces du dernier des grands zoos humains du XXe siècle. On les a bannis de notre mémoire collective car ils constituent la preuve la plus visible des mécanismes du racisme populaire en Occident. Alors, qu'en reste-t-il ? Aujourd'hui, c'est dans les caves devenues inaccessibles des grands muséums mondiaux que les corps de nombreux spécimens morts en exhibition attendent que justice leur soit rendue. Serait-ce pour faire oublier leur origine douteuse qu'on s'empresse maintenant de rendre quelques corps, parmi lesquels le plus symbolique, celui de la Vénus Hottentot, de son vrai nom, Saadji Barthé.
Comme je vous l'exprimais tout à l'heure, la montée dans les programmes du thème colonisation-décolonisation à propos des débats, mais aussi cette fameuse loi du 23 février 2005, dont un article, l'article 4, alinéa 2, demandait dans les programmes d'histoire et aux enseignants d'insister sur le rôle positif de la présence française outre-mer et notamment en Afrique du Nord. Or, si je reviens un peu à la géographie, eh bien, si vous prenez une carte des États où on voyait effectivement des routes créées dans les États, mais ces routes, encore faut-il bien faire remarquer qu'elles servaient surtout à exporter les richesses de ces pays et de mettre en place une économie totalement extravertie. C'est le même rôle aussi des voies de chemin de fer qui servaient pour les mêmes raisons et pas tellement pour la population. La création des voies de communication n'a pas été sans conséquences sur les pertes humaines. Je pense par exemple à la voie de chemin de fer du Congo, propriété du roi des Belges, a déterminé 20 000 morts.
Et toi Eric, toujours personnellement, qu'est-ce que tu as envie d'en dire de cette colonisation ou de ses bienfaits, comme ils ont osé dire?
Je vais prendre deux exemples très personnels. J'ai rencontré, au cours de mes pérégrinations d'étudiants, j'ai rencontré un médecin de Madagascar, malgache, qui n'osait pas me dire ce qu'a été la barbarie de la colonisation de Madagascar. C'est un territoire qui n'a jamais été calme, qui a toujours été contre cette mainmise de l'État français. Pourtant, la barbarie est telle qu'on pense aujourd'hui que le nombre de morts pendant cette période de colonisation et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, les révoltes sans cesse, on arrive à peu près à 17% de la population de Madagascar qui a été massacrée. 17% sur une population qui était déjà pas très importante. Or, dans les manuels scolaires, en tout cas ceux que j'ai eu en main, il n'y a quasiment aucun document sur le cas de Madagascar. Et certes, Madagascar est cité, mais de façon très épisodique, dans une phrase, sans plus. Un petit mot sur nos territoires d'outre-mer. Je pense à La Réunion, qui est un territoire intéressant, qui montre quand même la marque de une situation post-coloniale qui se perpétue dans l'océan Indien. Si vous prenez les postes administratifs importants, ils sont toujours détenus par les oreilles. Les oreilles, ce sont des blancs qui sont venus de la métropole. Alors que on a parlé beaucoup de créolisation de l'administration. Pour l'instant, ça ne me paraît pas très marqué. Parallèlement, la situation des populations autochtones qui ont été repoussées dans les hauts de la Réunion, dans les zones de culture de la canne à sucre, etc., avec une marque, sont très marqués par la consanguinité et aussi l'alcoolisme, et c'est assez terrible à voir. En ce qui concerne les aspects vécus, je pense quand même à un pays qui m'est cher, qui est l'Algérie, et où j'ai traversé en 82-83. Et déjà, on sentait, avant même cette décennie terrible hein, des années 90, on sentait la montée de l'intolérance à propos, par exemple, des filles à l'université qui n'étaient pas voilées. Dans le même genre d'idée, mais à l'opposé, très positif, c'est la force des paysages de l'Algérie. Pour un Français, les paysages ont une échelle assez modeste. Et alors que quand vous arrivez en Afrique et puis en Algérie, par exemple, à traverser du Sahara, c'est des échelles très différentes. Les paysages sont fantastiques. Je n'ai pas eu dans cette traversée, je suis parti de Tlemcen, j'ai fait La Rouate, Gardaïa, etc. Puis remonté en mettant de côté, parce que manque de temps, les Aurès, pour arriver en Kabylie. J'ai été très très marqué par la force des paysages, la beauté des paysages, quand vous avez été pendant un certain temps dans ces grandes plaines, dans le désert, le sable, mais pas forcément beaucoup de dunes de sable, mais plutôt le reg, c'est-à-dire ces zones caillouteuses. Quand vous arrivez des villages percés de Kabylie et que vous avez à l'horizon la beauté de la Méditerranée à la hauteur de Bougie ou Béyaïa aujourd'hui, c'est assez, ça vous marque à tout jamais. Au-delà des 132 ans de la colonisation de l'Algérie, on peut faire de sacrées rencontres dans ce fameux voyage en Algérie. En plein désert, j'ai rencontré un Touareg qui, à un moment donné, me demande de où je suis, et je lui dis que je suis de la région de Lille, et il me répond « Ah, Lille, je connais bien, je vendais des tapis à la foire commerciale de Lille, foire commerciale de Lille qui a maintenant disparu, puisque c'est maintenant le Zénith. »
Eric, nous arrivons à la fin de cette émission. Que veux-tu dire en conclusion ?
Je voudrais revenir sur le rôle des documents dans nos enseignements d'histoire-géographie. Deux remarques. D'une part, les documents dans les manuels scolaires reflète à peu près la diversité des approches sur nos deux thèmes, colonisation, décolonisation. Par exemple, les textes des discours de deux monuments de notre histoire figurent bien dans les manuels. Je veux parler du discours de Victor Hugo en 1879, jour anniversaire de l'abolition de l'esclavage, d'ailleurs remplacé très vite par le travail forcé. Dans ce discours, Hugo proclame « L'Afrique n'a pas d'histoire ». Ainsi que, au XIXe siècle, le blanc a fait du noir un homme. Au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Quant à Jules Ferry, le 28 juillet 1885 à l'Assemblée nationale, après avoir justifié la colonisation par la nécessité de maintenir la grandeur de la France et de rivaliser avec les concurrents européens comme l'Angleterre, il déclare « Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Par ce discours, d'ailleurs, Jules Ferry arrachera les crédits pour la poursuite de l'action du parti colonial dans l'Empire français. Deuxième remarque, on peut noter une évolution du type de document support de nos enseignements. Le texte est de plus en plus remplacé par l'image fixe ou mobile, en l'occurrence la vidéo. Il est nécessaire de bien avoir à l'esprit le grand pouvoir de séduction de la vidéo qui peut entraîner un certain relâchement de la vigilance critique. Il faut être aussi conscient que la carte est une représentation, donc l'expression de son auteur en rien neutre. Remarque dont rarement les élèves sont avertis. Autre remarque. 128 ans après le discours de Victor Hugo, le président de la République, Nicolas Sarkozy, devant les étudiants et les personnalités politiques africaines réunies à l'université de Dakar, déclare « L'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire ». Décidément, les stéréotypes ont la vie dure. Enfin, en ce qui concerne les documents des manuels scolaires, pour le débat toujours renouvelé de la perception de notre histoire coloniale et de la décolonisation, il serait opportun de donner plus la parole aux colonisés africains et d'outre-mer de toutes les époques. Je pense entre autres à Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, M.B., Fanon, Joseph Razetta.
Merci beaucoup Eric et à bientôt.
Merci Jeanne et au revoir à tous.
Je close cette émission avec Ona, une chanson de Babacar Traoré, le bluesman malien.
Thank you. Sakao Samaloi Tekana Wasa Sakao Samaloi Tekana Wasa Ona
Présenté par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.